Est un message du gouvernement.
Allô ? Ouais, ça va, ça va. Sauf que je cherche un nouveau livreur. Je viens de mettre une offre sur Hello Work et... Oula, attends, je reçois plein de notifs, je te rappelle.
Avec Hello Work, recevez vos premières candidatures pertinentes très rapidement. Recrutez vite, recrutez bien sur jerecrute.hellowork.com.
Dans un instant, dans SL Midi, on va parler de ce petit garçon de 8 ans qui a tapé sa directrice d'école, qui a insulté des élèves dans sa classe. Alors, violence, trouble du comportement, est-ce qu'il faut revenir sur la scolarisation pour tous? On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. RMC, les 14h. L'essentiel de l'actualité avec Jamila Zegoudi.
Pas question de laisser filer la production de Doliprane hors de France. L'exécutif demande des engagements précis concernant le projet de cession d'une filiale de Sanofi à un fonds américain. Des engagements sur l'emploi et la production notamment. Le ministre de l'économie Antoine Armand, en visite dans l'usine de Lisieux ce matin qui produit le Doliprane, assure que ces engagements seront assortis de sanctions en cas de non-respect. Samuel Paty en 2020, Dominique Bernard il y a un an, une minute de silence est respectée aujourd'hui dans les collèges et lycées de France pour ne pas oublier ces deux professeurs assassinés par des islamistes radicalisés. Cet après-midi, le Premier ministre, accompagné de sa ministre de l'Éducation, se rendront à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, au lycée de Samuel Paty, qui prochainement devrait être rebaptisé en son nom. Les armes parlent toujours au Proche-Orient, où Israël bombarde pour la première fois la région d'Etou, dans le nord du Liban. À Gaza, l'ONU dénonce une nuit d'horreur après de nouveaux bombardements sur un hôpital et une école transformée en refuge. De nombreux morts à déplorer. Le Quintet Plus, il se déroule aujourd'hui sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Bonjour Dimitri Blanc-L'œil.
Bonjour Jamila, bonjour à tous. Avec l'arrivée provisoire du Quintet, c'est le numéro 13, Joe Spirit, qui s'impose devant le numéro 6, Tumblr. Le 11, Terre de Guerre, est 3e devant le 4, Tiger. Et le 12, Monsieur Cassiope, qui termine 5e. 13, 6, 11, 4 et 12 pour l'arrivée provisoire du Quintet sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On se retrouve à 15h pour l'arrivée définitive et les rapports de ce Quintet. À tout à l'heure.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, avec l'ancienne ministre et désormais présidente de l'ONG Active, Marlène Schiappa. On est avec le journaliste de Marianne, Terry Collégas, et la journaliste de l'Incorrect, Juliette Briens. Dans un instant, on va se poser cette question. Faut-il revenir sur la scolarisation pour tous après ce fait divers dans le Nord? Un élève de 8 ans qui a porté des coups sur sa directrice d'école. Appelez-nous, 3216 et l'appli RMC. Et à 14h30, on parlera de soupe. Est-ce qu'on peut vraiment boire les soupes industrielles? Voilà. Est-ce que c'est bon pour la santé, une soupe industrielle? Eh bien, écoutez, il y a Charlotte Méritant qui nous dira tout dans RMC Conso. Ce sera à 14h30. Et puis les immanquables, Rémi, avec des menaces.
Oui, absolument. Le ministre de la Justice, le tout nouveau ministre de la Justice, qui menace déjà de démissionner.
C'est rapide, non?
D'argent. Enfin, pas à lui, mais à son ministère. Et puis, on parlera également du championnat du monde de dégustation de vin à l'aveugle. C'était ce week-end. Ah. Et ça va très mal pour la France.
Mais non. Ah, si. On n'est pas les meilleurs.
Ah non. Loin de là.
Ah, bah écoutez, on verra ça à 14h40.
RMC Estelle Midi.
14h03 sur RMC. On va s'intéresser tout de suite à l'affaire du jour. Ça se passe à Trélon, dans les Hauts-de-France, où une directrice d'école a porté plainte contre un élève de 8 ans. Ce jeune garçon se serait montré violent envers elle et sa maîtresse, avec des coups de pied, des insultes ou encore des chaises lancées en pleine classe. La directrice est désormais en arrêt maladie et ce n'est pas la première fois, Rémi, que ce genre de choses se produit.
Bah oui, exemple, il y a près d'un an, cette fois c'était dans une école primaire de Malonnet, on est en Seine-Maritime, où les élèves d'une classe de CM2, ou plutôt leurs parents, se sont mis en grève une journée classe morte pour protester contre le comportement ingérable de deux élèves de cette classe de CM2 qui multipliaient les violences verbales et physiques à l'encontre de leurs camarades, mais même parfois à l'égard des adultes. Des élèves qualifiés par les spécialistes de hautement perturbateurs, voilà comment on les appelle, et face auxquels enseignants, direction se trouvent souvent démunis. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ces élèves, on les met où? L'école se veut inclusive. Et la question se pose également pour les enfants handicapés. Si un peu moins de 134 000 d'entre eux étaient accueillis à l'école en 2004, ils étaient plus de 436 000 en 2022, avec parfois des effets pervers. Ça, c'est pas moi qui le dis, évidemment, et c'est un sujet qui est extrêmement sensible, mais c'est ce que dit la Cour des comptes. En fait, le manque de place dans les instituts médico-sociaux, spécialisé conduit parfois les établissements scolaires à accueillir des élèves qui présentent des troubles face auxquels les personnels se trouvent totalement démunis, y compris les AESH, ce qu'on appelle les accompagnants d'élèves en situation de handicap. On sait qu'ils étaient trop nombreux ces dernières années, mais là, ça a été revu depuis 2017, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Pour preuve, aujourd'hui, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH, c'est le deuxième métier de l'éducation nationale. Il y avait 78 816 agents en 2023, en hausse de 90% depuis 2013. Ce que j'espère que vous aurez bien compris, c'est que parfois, à force de vouloir faire du trop inclusif, on accueille des élèves dans les classes qui, malheureusement, ne sont pas gérables.
Ah oui. Alors, faut-il revenir justement sur ce grand principe qu'est la scolarisation pour tous, Perico Légas ?
On sortait d'un sujet où on avait un gamin de 14 ans qui avait assassiné, présumé assassiné. Et là, on a dans l'enceinte scolaire des enfants, c'est des enfants, qui ont un comportement qui dépasse l'entendement. Alors, il y a certainement des causes structurelles, techniques, qui fait que ces enfants ont peut-être...
Psychiatriques.
Mmh. Bon, mais là aussi, pourquoi tout d'un coup, c'est dans ces proportions-là ? Il y a aussi, un moment donné, un petit peu de relâchement. Alors, j'ai utilisé la formule violente de barbarisation tout à l'heure. Il y a quand même, j'allais dire, une déstructuration de la société, de la famille, des valeurs, des repères, des interdits. Voilà, là aussi, il y a eu à laisser aller de la place de la
mais
part.
Mais t'as toujours eu des enfants difficiles.
Mais pas dans ces bien sûr, Estelle, mais pas dans ces proportions-là. Et puis pas avec des effets aussi dramatiques. Et surtout, ce qui me théorise, c'est la réponse. Ah bon, on va gérer, on va faire avec. Donc, c'est quoi la solution ? Déjà, savoir pourquoi on a pu en arriver là. Comme dans le cas précédent, pourquoi est-ce qu'on a pu, dans un état de droit démocratique, c'est la République française...
Parce qu'on a décidé d'accueillir tous les enfants en classe, en fait.
Qui a décidé ça, et en vertu de quel principe, de quelle valeur, de quel discours politique ?
Un principe d'égalité.
Par qui ? L'égalité, elle a toujours existé. Je suis désolé, l'égalité, elle était mieux traitée.
À partir de quel moment tu n'accueilles plus ?
Dans les années 70, il y avait 17% d'enfants d'origine ouvrière qui étaient dans les hautes écoles. C'est plus le cas. Donc l'égalité, c'est pas vrai.
Alors, d'accord, mais à partir de quand tu n'accueilles plus ? À partir de quoi ? Ce gamin, il a 8 ans. Il a déjà posé des problèmes en maternelle quand il avait 3, 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce qu'on dit ?
Déjà à la maternelle.
À partir de quel handicap tu n'accueilles
déjà
pas ?
Déjà à la maternelle, je veux savoir pourquoi il en est à ce niveau-là et pourquoi il y en a autant de cas. Voilà. Et à un moment donné, on ne met pas en péril l'institution scolaire qui est déjà fragile. Alors, la scolarisation, c'est ce que je vous ai répondu, elle est obligatoire. La République ne va pas dire j'exclus de la scolarisation.
Donc tu le mets où, ce gamin ?
On crée des structures particulières.
Ah oui, il n'y en a pas.
Voilà, on crée des structures particulières. Voilà.
Mais oui, c'est tout le problème.
Mais si on avait commencé avant à s'occuper à ça, on ne serait pas là en train d'éteindre l'incendie. On aurait peut-être évité la.
Mais ce gamin, si par exemple, avec quelques mesures, quelques adaptations, peut-être que ce gamin, il peut revenir, dans le droit chemin, entre guillemets. Et peut-être que si tu le mets dans un centre spécialisé, il n'aura aucune chance dans la vie de revenir dans un cursus
Estelle,
classique.
C'est pas aux autres enfants à faire l'expérience et à subir la cobayisation du système, ni aux profs.
Aux enseignants.
Voilà, ni aux enseignants. C'est pas eux à payer pour ça. Ça, c'est aux services qui sont concernés.
Juliette Briens, est-ce que vous pensez qu'il y a des enfants qui n'ont rien à faire à l'école ou est-ce qu'il faut justement rester sur ce grand principe et tous les enfants ont droit à une scolarité classique, même si on peut penser que dans certains cas, ils n'en sont pas forcément aptes ?
Non, mais il y a tellement de sujets là-dedans. C'est vrai que on disait tout à l'heure, montée de la violence dans la société, une fois que la violence est présente, la violence s'insère dans toutes les strates de la société. Donc voilà pourquoi les enfants sont de plus en plus violents, de plus en plus jeunes. Pour ce qui est du handicap, parce que vous dites, on n'a pas les structures. C'est totalement vrai, on les a pas. Et d'ailleurs, on n'a plus aucun argent maintenant, donc on les aura jamais. Mais je me rappelle qu'il y a aussi de l'idéologie là-dedans. Parce que je me rappelle de quelque chose qui vient de me revenir là, de la campagne 2022, quand Éric Zemmour avait dit précisément que... il y avait des enfants handicapés qui étaient malheureux à l'école normale et qu'il fallait leur trouver des écoles spécialisées, des centres spécialisés.
Mais tous les handicaps ne sont pas les mêmes.
Non mais attendez.
Non, mais un handicap physique n'est pas la même chose qu'un handicap mental.
L'opinion était montée au créneau et tout le monde était tombé sur Éric Zemmour en disant non, l'école doit être inclusive, l'école doit être inclusive. Donc il avait raison. Voilà, il avait raison. Et
pour toi ?
Pour les... non, parce que je sais, qu'en fait, moi je connais des mères qui ont des enfants handicapés. Par exemple, prenons l'autisme. Qui peut vraiment être un calvaire à gérer pour les parents. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très grave. C'est pas un cadeau pour l'enfant, en fait, non plus, autiste en lui-même, de le laisser dans cette école. Après, pour ce qui est des enfants violents, 8 ans, On est d'accord.
Oui, oui, bien sûr.
On n'est pas sûr. Il y a 14, 15 ans, on est 8 ans. Bon, et ben peut-être que déjà, on parlait de l'ASE tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose à fouiller dans la famille, parce qu'un enfant de 8 ans, d'un niveau de violence pareil, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond à la maison, on est tous d'accord avec ça. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas l'enfermer. Mais effectivement, moi je pense que ça aussi, là aussi, il faudrait des structures spécialisées. C'est énormément d'argent. Et comme on fait rien depuis des années, par pure idéologie, je le répète, moi je dis que c'est de l'idéologie, et ben aujourd'hui on a rien, et puis on a clairement plus les moyens, ça c'est sûr.
Est-ce qu'il faut remettre le débat sur la table, Marlène Schiappa, ou c'est un tabou pour vous?
On peut remettre le débat sur la table, mais d'abord j'observe qu'il y a un vocabulaire, pas autour de cette table, hein, mais de façon générale, dès lors qu'on parle du comportement des enfants, il y a un vocabulaire psychologisant, alors qu'on ne maîtrise pas forcément certaines notions. Par exemple, l'autisme, c'est un spectre. Donc sur le spectre autistique, vous avez des enfants qui ont des TSA, des troubles du spectre autistique, ça peut aller de exactement, ça peut aller de une légère phobie sociale ou une anxiété, un bégaiement ou une focalisation sur certains sujets au détriment d'autres, qui ne vous empêche pas du tout d'être sociable, d'être parfois très bon élève, d'avoir des amis, à un trouble du spectre autistique très sévère et lourd qui là vous empêche même de dialoguer, de regarder les autres dans les yeux, et vous avez besoin d'avoir des gens autour de vous qui vous prennent en charge. Et si vous n'en avez pas, effectivement, la scolarisation est extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on dit très souvent, vous avez remarqué le nombre d'enfants HPI autour de vous?
Oui.
Je veux dire, tout le monde a un enfant HPI. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens qui sont au potentiel intellectuel. Il y a très probablement des enfants qui vraiment sont dans une situation où ils ont un potentiel élevé intellectuellement, et donc ils sont neuroatypiques. Donc, c'est de la neurodiversité. Donc, il faut qu'ils puissent bénéficier d'un apprentissage un peu différent, qu'on s'adapte à eux. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas 90% d'enfants HPI.
Non.
Il y a aussi des enfants mal élevés, ou qui ont de l'inattention. Ou juste qu'ils sont pas bons à l'école, et ça veut pas dire qu'ils sont pas intelligents, pas gentils, pas machin, mais ils sont pas scolaires. Donc je pense qu'il faut aussi arrêter, on rend pas service quand on dit à tous les parents, non mais il est HPI votre enfant, c'est pour ça qu'il est violent, qu'il est en colère, que ça marche pas. Donc je connais pas ce cas particulier parce qu'on n'a pas eu accès au dossier, donc je pense qu'il faut être prudent sur ce cas, mais évidemment toute violence est inacceptable, et évidemment on doit faire en sorte de prioriser la prise en charge des enfants en situation de handicap, mais aussi la psychiatrie qui est extrêmement importante. Aujourd'hui les délais pour avoir un rendez-vous, mais bien sûr pour avoir un rendez-vous en tant que maman dans une MDPH, pour avoir un rendez-vous avec un psychologue, bah, c'est des mois d'attente parfois. Donc entre le moment où vous repérez la détresse de votre enfant, et je rappelle que nos enfants, c'est la génération Covid, hein. C'est ceux qui ont vécu un an et demi de confinement, et on n'a pas encore bien mesuré, à mon avis, je parle là en tant que mère, on n'a pas encore mesuré les effets et les dégâts psychologiques sur les ados et les jeunes adultes d'aujourd'hui, un an et demi enfermés.
54% des moins de 25 ans qui seraient en état dépressif.
Oui, mais alors, ce gamin de 8 ans.
Je ne parle pas de la violence.
Oui, mais là, on est sur le sujet.
Ce gamin de 8 ans, Marlène Schiappa, là, manifestement, il n'est pas apte à avoir une scolarité classique, puisque ça fait des années que ça dure.
Non,
pour les autres parents, c'est un enfer, parce qu'en fait, leurs enfants ne peuvent pas suivre. Parce que vous avez un gamin comme ça dans la classe, évidemment, ça nuit à la scolarité de tous les autres enfants.
Vous avez même peur pour votre enfant. Si un enfant violent, vous n'êtes pas serein.
Qu'est-ce qu'on fait de ce gamin?
Je pense qu'il faut apporter une solution avec un institut, mais il en existe des instituts. Donc, effectivement, il faut que ça soit
blindé de monde. On ne peut
pas. Mais bien sûr, moi, j'avais une mère dans mon association qui disait qu'elle envoyait son fils en Belgique parce qu'en France, il n'y avait pas la place. Donc c'est évidemment terrible, c'est évidemment un énorme problème. Mais la question aujourd'hui, elle se pose, et la question de la violence, elle est inacceptable. Et on ne peut pas avoir cette excuse derrière de la non-prise en charge en légitimant la violence et en disant que c'est comme ça. Et trop souvent, on a tendance à minimiser ce qui se passe entre les enfants. Là, c'est sur la violence, mais si je prends un autre sujet sur le harcèlement scolaire, trop souvent, on va vous dire « Ah, c'est des querelles d'enfants, c'est entre eux, c'est pas grave. » Ben non, ça peut être parfois très grave.
Marlène, il y a quand même ce qu'ils voient à la télé aussi en permanence.
Il a 8 ans, le gosse.
Il regarde pas la télé. Il est pas en permanence devant des écrans, devant des tablettes, devant des réseaux sociaux.
Si, c'est
devant
vrai
des
qu'on sait pas ce que font nos enfants, nos jeunes sur les écrans. Hein. 8 ans, il suffit qu'il ait un télé. Il y a plein de gamins de 8 ans avec des téléphones.
Mais évidemment, attendez, il y a des études qui sont sorties qui prouvent que la violence à l'écran, aujourd'hui accessible par les enfants dans des programmes dits de distraction, est absolument calamiteuse.
Et on sait pas quelle vidéo ils regardent sur leur téléphone.
Juste Stéphane Clerget est notre invité. Stéphane Clerget, il est pédopsychiatre. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que ça vous surprend le cas de ce gamin qui n'est pas isolé, d'ailleurs de 8 ans, qui tape sur sa maîtresse, qui balance des chaises en pleine classe? Est-ce que vous, parmi vos jeunes patients, vous avez de plus en plus de cas de violence?
De plus en plus, non, mais il y en a, bien sûr, assez régulièrement. Hein. Ça nécessite une prise en charge et on peut tout à fait obtenir d'excellents résultats en faisant un travail, évidemment, d'aide à la parentalité ou en diagnostiquant des troubles chez l'enfant qui peuvent expliquer des comportements violents, qui peuvent se soigner. Mais parfois, effectivement, certains de ces enfants doivent être pris en charge dans des structures autres que l'école. Ce qui se passe avec l'accueil des enfants handicapés à l'école, c'est aussi des raisons économiques. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, on a dit les enfants handicapés peuvent aller à l'école. Donc évidemment, c'est formidable, les parents étaient très contents. Mais en fait, tout le monde s'est fait un petit peu avoir. Parce que ces enfants qui étaient dans des IME ou dans des ITEP, où il y a un adulte pour quatre enfants, se retrouvent dans des classes de 30 avec une enseignante et avec un peu de chance, une accompagnante, hein, une AESH.
Une AESH, ouais.
Donc il y a un vrai problème. Comment voulez-vous qu'une enseignante tout spécialisée et bienveillante soit-elle puisse s'occuper à elle seule de 30 enfants, dont deux enfants porteurs de handicap, qui étaient jusqu'alors pris en charge par des éducateurs, des infirmiers, des psychologues. Donc c'est aussi une question économique. Et personne ne dit rien parce que si les enseignants disent on n'en veut pas, on leur dit ah vous êtes pas gentils, vous accueillez pas les enfants handicapés. Bon, donc il faut revenir un peu à la raison et recréer des structures qui peuvent accueillir des enfants en grande difficulté, pas forcément à temps plein, mais ça peut être à temps partiel. Rappelons, dans ces IME et dans ces ITEP, il y a aussi des enseignants, il y a aussi un accueil pédagogique. Donc c'est aussi sur un plan un peu politique et économique qu'il faut répondre à ces questions-là, pas uniquement sur un plan individuel de tel ou tel enfant.
Et est-ce que vous pensez aussi qu'on assiste quelque part aux conséquences du confinement, voilà, des élèves qui ont dû porter un masque pendant un an et demi, qui ont été confinés chez eux dans des conditions parfois pas faciles pendant plusieurs mois? Est-ce que on est en train d'en payer le prix pour vous, Stéphane?
Non, j'y crois pas vraiment. C'était évidemment une période assez pénible, encore que certains, les adolescents, certains ont trouvé ça plutôt agréable de rester chez eux, ont davantage échangé avec leurs parents. Je crois pas qu'on puisse affirmer effectivement que ce soit la cause de tout, parce que c'est une explication un peu simpliste. D'accord. Et que des troubles comme ça, on en avait aussi avant le confinement. Et on peut pas dire, il n'y a pas d'études qui nous disent qu'effectivement, il y a plus d'enfants agressifs depuis le confinement. On parle beaucoup de troubles de l'humeur, où il y aurait beaucoup plus de dépression, possiblement, mais on peut pas dire qu'il y a vraiment eu une
explosion.
Transformation psychologique des enfants et que le confinement expliquerait tout. Ça me paraît un peu
court. Merci Stéphane, mais restez avec nous. Hein. On a le témoignage de Guy qui nous appelle de Corse du Cid. Quelle chance il a, Guy. Il nous appelle de Figari et il est retraité éducateur. Bonjour Guy.
Oui, bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Guy, vous voulez réagir là-dessus. Est-ce que pour vous, la scolarisation pour tous, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Vous qui avez été éducateur, justement.
Ah bon. C'est une hérésie, oui, c'est une hérésie, parce que on a voulu faire l'intégration comme les Italiens, mais les Italiens, c'est dans leur culture, ils ont toujours fait ça, c'est-à-dire qu'ils avaient les moyens du départ. Nous, on a voulu le faire, mais on ne s'est pas donné les moyens. Et les instituts éducatifs, IME, ITEP, instituts médico-professionnels, je veux dire, sont adaptés pour ces populations. Évidemment que je suis complètement d'accord avec l'auditeur précédent qui est...
Oui, Stéphane Kerger, qui est pédopsychiatre, oui.
Voilà. Eh bien, une institutrice avec une AVESCO pour un enfant handicapé, elle tombe enceinte, elle n'est pas remplacée. L'institutrice se retrouve avec 30 gamins et un enfant handicapé. C'est ingérable.
Et oui, le petit garçon de 8 ans, ça se trouve, il n'est pas handicapé, c'est juste des failles éducatives, quoi. Est-ce qu'on va le priver de scolarité alors que ça se trouve...
Il a des troubles de comportement, donc il doit aller...
Au moins un suivi psychologique.
J'ai travaillé avec des adolescents qui en ITEP, hein, qui avaient des troubles de comportement. Je vous explique, pour ne pas citer l'œuvre du village d'enfants qui emploie des dizaines d'établissements, on parle d'économie. Écoutez bien, j'étais éducateur technique spécialisé, après avoir travaillé à l'ADAPI pendant de nombreuses années. Et si vous voulez, j'avais un atelier où je remettais des jeunes au boulot qui avaient des troubles de comportement. Les chefs d'entreprise venaient nous les chercher. Ces jeunes sont suffisamment intelligents. Aujourd'hui, ils ont fermé les ateliers. Les ateliers, quand je suis parti à la retraite, ont été fermés. J'ai la haine. Aujourd'hui, ça fait 14 ans. Et j'écoute qu'on va relancer l'apprentissage. Les chefs d'entreprise venaient nous les chercher à la sortie. Des jeunes avec des troubles de comportement qu'on remettait au boulot.
Et ça se passait bien, d'ailleurs.
Qui n'avaient jamais vu travailler ni le père ni le grand-père. C'était une gageure de leur faire de la réussite professionnelle. On remettait ces jeunes au boulot.
Oui, mais là, il a 8 ans, le gamin. Il a 8 ans, Guy. Moi, j'entends ce que vous dites, mais à 8 ans, on ne va pas le mettre au boulot, quoi. Enfin, ça me paraît.
Non, mais oui, mais je vous parle de la filière, moi. la filière.
Oui, mais ça j'entends.
C'est pas l'éducation nationale, c'est l'éducation spécialisée.
Oui.
Je regrette. Alors économiquement, oui, mais là, je vous parle de l'OVE. Là. Aujourd'hui, les jeunes, on veut faire des économies. L'apprentissage, les remettez au boulot. Vous savez ce qu'ils vont faire, les jeunes d'aujourd'hui? Ils vont toucher le RSA ou la prime handicapée.
Oui, mais là on est sur un. Je comprends, Guy, mais on est sur un autre débat. Là, encore une fois, on parle d'un gamin qui est en école primaire, qui pose des problèmes depuis qu'il est en maternelle. Donc là, on n'est pas sur l'idée. Et je comprends parfaitement ce que vous dites, mais on n'est pas du tout sur l'idée là de le mettre sur le marché du travail. C'est juste, est-ce que on le garde dans une classe? Est-ce qu'aujourd'hui il faut faire le tri entre guillemets? Parce que Marlène Schiappa, il y a un moment où peut-être que ce gamin il n'est pas condamné à ça. Je veux dire que peut-être que plus tard, il sera ingénieur, neurochirurgien. Il n'a pas pris tout à fait la bonne voie. Mais je veux dire, ce n'est pas parce qu'il est violent ou qu'il a des problèmes de comportement que plus tard, il ne réussira pas sa vie. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui.
Mais
quoi.
C'est une vraie question. Fait. Et puis, il y a des raisons à la violence. Alors, Stéphane Clerget disait le confinement n'explique pas tout. Il a bien sûr raison, mais ça n'explique pas tout. Mais ça peut être quand même une partie d'une explication pour cette génération. C'est quand même quelque chose d'hyper particulier d'être enfermé pendant un an et demi à l'âge où vous vous construisez. Et moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup travaillé.
Enfermé un an et demi, hein. Ils sont retournés au travail, à l'école, les gamins.
Avec un couvre-feu, c'est quand même une condition particulière. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'Union des métiers de la nuit. Vous savez, ils s'occupent des bars et tout. On parlait de la manière dont sortaient les jeunes. Et ils me disaient que lui, il voyait de moins en moins de solidarité et de plus en plus de violence chez les jeunes adultes. Et lui, son explication, je ne dis pas que c'est la mienne, mais son explication, c'était de dire qu'ils n'ont pas appris à sortir. Entre 16 ans et 18 ans, il y avait un couvre-feu, ils ne sortaient pas, ils n'allaient pas dans les bars, les restos, les boîtes, ils ne savaient pas comment se comporter. Et d'un coup, paf, ils sont rentrés chez eux, ils avaient 16 ans, et un jour, ils ont pu aller en boîte, ils avaient 18 ans, ils n'avaient jamais fait l'apprentissage, et du coup, ils se comportaient d'une manière peu solidaire. Ils me disaient que, par exemple, quand il y en a un qui est bourré, et qu'il alertait son copain en disant ton copain est bourré, il a l'air d'aller pas bien, il disait laisse-moi tranquille, je danse. Je ne dis pas que c'est ce que fait ce gamin de 8 ans, c'est pas le même âge, c'est pas la même génération, mais il y a un contexte qu'on doit prendre en compte et je veux juste conclure en disant qu'il y a 2 enfants sur 5 qui sont exposés ou confrontés à des violences intrafamiliales. C'est aussi une explication qu'on doit prendre en compte. Parfois un enfant qui mord, qui est agressif, qui insulte, sans bien sûr l'excuser, ça peut se trouver aussi dans la famille quand il est confronté à des violences ou témoin de graves violences, notamment conjugales, chez lui, au sein de sa famille. Ça normalise le comportement violent. C'est hyper important de le prendre en compte.
Justement, Stéphane Clerget, pédopsychiatre, qui est notre invité aujourd'hui. Stéphane, comment on peut expliquer qu'un enfant de 8 ans se mette à acheter des chaises dans une classe, insulte et frappe une directrice d'école ou une maîtresse? Ça paraît dingue, en fait.
Oui, et il y a effectivement une raison. C'est-à-dire que soit c'est maintenant, soit ça a toujours été, soit c'est circonstanciel. Et Mme Schiappa a raison de signaler que la violence intrafamiliale est évidemment une des causes du comportement violent d'un enfant. Donc au niveau de l'école, un signalement doit être fait. Une enquête médico-sociale doit être faite au niveau de la famille pour mettre en évidence éventuellement de la violence actuelle ou passée dont l'enfant serait victime ou serait témoin. Après, il y a parfois des troubles psychologiques qui peuvent aussi expliquer des comportements violents. Et c'est des choses qui peuvent être tout à fait prises en charge par un pédopsychiatre en faisant un travail psychothérapeutique. Et parfois, il est nécessaire de donner des médicaments pour permettre l'intégration de cet enfant au sein de l'école. Mais là, pour l'instant, il faut effectivement le mettre à l'abri. Manifestement, il ne se sent pas bien à l'école. Donc, on fait une pause, on enquête, on soigne.
Et on voit après. Diana est avec nous, elle nous appelle de Nancy, elle est assistante administrative et elle voulait témoigner sur le cas de son fils. Bonjour Diana.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, c'est un petit garçon de 6 ans, c'est ça?
C'est ça, tout à fait.
Et il a quel souci, votre petit garçon?
En fait, c'est un grand prématuré, donc du coup, il a des problèmes de concentration.
D'accord.
Donc à l'école, il est dans une école normale. Hein. Mm-hmm. Il a une AESH.
D'accord.
Qui le recentre en fait quand lui il rêve quand des fois il s'oublie et du coup il faut le recentrer sur son travail.
C'est pas gênant ça.
Non, c'est pas gênant du tout. Mais par contre, moi, je le vois pas dans une école spécialisée avec d'autres enfants qui ont des problèmes de comportement.
Alors c'est pas l'idée, oh là là, Diana.
En fait, il faut être humain dans cette question. Ça doit être cas par cas, bien évidemment. Et tous les handicaps, d'ailleurs, ne sont pas pareils. Et d'ailleurs, tous les autistes, quand je parlais d'autisme, il y a des autistes qui peuvent très bien suivre un cursus normal.
Bien sûr.
Des autistes qui ne peuvent pas. Évidemment, il faut être humain dans cette question.
Et on voit pas votre fils.
Oui, parce que vous, vous, votre fils, c'est juste des problèmes de rêverie. Il a une AESH, il gêne personne dans la classe. Donc, en fait.
Non, du tout.
Voilà, il a des bons résultats
gérable,
scolaires.
C'est tout à fait gérable.
Oui, ça va, oui.
Ah, bah oui.
Et
bah,
d'ailleurs, il y a même des qualités qu'on a des enfants qui sont sur le spectre autistique. Pardon, il y a des qualités qui développent l'empathie, la capacité d'une mémoire incroyable, la créativité, qui sont des qualités propres aux enfants et aux jeunes. Et je le dis aussi pour ceux qui cherchent des stages, là, de 5e, de 3e, je dis aux employeurs, prenez aussi des petits stagiaires autistes qui ont des qualités absolument incroyable et propre. Il ne faut pas les laisser sur le carreau.
Et ça pousse aussi, effectivement, quand on a un élève avec un handicap ou un trouble dans sa classe, ça pousse aussi les autres enfants à être plus en empathie. Donc, à voir que tout le monde n'est pas exactement pareil, etc. Et qu'on peut avoir des petites différences et essayer d'aider son voisin parce qu'il peut avoir un handicap physique, il peut avoir des petits troubles de l'attention, etc. Et ça pousse aussi les élèves à faire attention à l'autre. Ça fait partie de l'éducation, effectivement. Mais Diana, évidemment, quand on disait, faut-il de revenir sur la scolarisation pour tous, c'est dès lors qu'il y a un souci dans la classe et un souci de violence, notamment. Et ça empêche les autres enfants d'étudier.
Après, je pensais aussi aux parents de faire attention. Enfin, moi, dès que j'ai vu qu'il y avait quelque chose, il a eu une psychomotricienne, il va chez l'orthophoniste, et je pense que c'est important. Voilà, faut que chaque parent fasse attention à leur enfant, en fait.
Merci beaucoup Diana d'avoir été avec nous et Loïc également nous a appelé au 32-16 depuis Liffré en Ille-et-Vilaine. Bonjour Loïc.
Et bonjour.
Et vous, êtes papa d'un garçon d'un enfant de 14 ans, c'est ça, avec des troubles autistiques?
C'est bien ça. 14 ans de troubles autistiques qui ont été décelés 2 ans.
Ouais.
Expliqués depuis la grande section.
D'accord.
Ouais.
Et il a été en école classique, on va dire, jusqu'à ses 14 ans?
Ah bah, il est toujours en école classique, hein, c'est bizarre. Il est en bien actuellement.
Loïc, malheureusement, on vous entend très très mal. La ligne est très mauvaise. Mais ce que je comprends de votre message, juste, si on arrive à vous entendre, Loïc, ouais. Est-ce que ça se passe bien à l'école ou pas du tout?
Alors, niveau scolaire, c'est impeccable. Franchement, il a une super bonne moyenne.
D'accord.
Mais le comportement, c'est très 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 compliqué, quoi.
Ouais. Pour lui ou pour ses camarades?
Ben pour lui et ses camarades.
Alors, d'accord.
Pour lui, parce que il s'en veut de son comportement. Hein. Il a la conscience de dire que c'est pas bien, qu'il a mal agi, et ses camarades sont un peu à cran par son comportement, si vous voulez.
D'accord. Ouais. Donc c'est une situation qui est pénible, en fait, malheureusement pour les deux, qui n'est pas facile à gérer. Mais si vous dites que ça se passe bien, en tout cas au niveau des résultats scolaires, ça paraît compliqué de pénaliser un enfant aussi, qui a des troubles. On le disait.
C'est pas forcément pénaliser parce que ça rend malheureux. Hein,
oui, mais il a des bons résultats scolaires, donc tu vas faire quoi, en fait?
Bah oui, mais si il empêche les autres de travailler et que ça le rend malheureux, peut-être que. Juste, on a l'impression qu'on se fait une mauvaise image du centre adapté, mais ça peut faire du bien aux enfants. Mais non, mais parce qu'on ne met pas tous les handicaps aussi. Normalement, il faut que ce soit très spécialisé. Si c'est spécialisé, on ne met pas tous les handicaps dans la même classe, dans le même sac. Voilà, dans le meilleur des mondes. Hein,
mais si tu as les moyens de poursuivre une scolarité classique, là, c'est des troubles du comportement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des troubles du comportement, mais pas en pleine classe, Loïc, j'imagine.
Ça peut être en pleine classe, ça peut être en école. Et moi, tout oui, je voulais juste revenir sur la personne qui a dit que c'était très compliqué d'avoir un rendez-vous chez un pédopsie. Moi, je vous accorde que c'est la réalité absolue. Parce que nous avons fait des démarches. Aucune structure nous dirige vers les démarches, vers les professionnels pour faire ces démarches, des reconnaissances, des suivis. J'ai téléphoné moi-même à des pédopsies pour le prendre en charge. Et on m'a dit, vous savez, monsieur, c'est 3-4 ans d'attente.
Oh là là. Ouais. Bah oui, il y a une misère psychiatrique aujourd'hui, en tout cas dans tous les domaines de la psychiatrie aujourd'hui en France, et notamment la pédopsychiatrie. Et c'est aussi pour ça que Rémi le rappelait, il y a de plus en plus d'adolescents aujourd'hui qui sont vraiment en situation de détresse.
Ça témoigne quand même, Estelle, de souffrance nouvelle
qui a toujours existé. C'est qu'on la prend plus en compte aussi.
Voilà, c'est ça, elle prend des proportions.
On en parlait moins.
Oui,
voilà,
mais le paradoxe, c'est qu'on attend notre société qui, en général, a appris à s'armer et est équipée de méthodes sociales, de moyens, de ne pas pouvoir répondre à cette tragédie.
Ouais. Merci en tout cas Loïc d'avoir été avec nous et de nous avoir confié eh bien justement votre quotidien avec votre adolescent. Stéphane Clerget, pédopsychiatre, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et on va tout de suite terminer avec des messages, Rémi, résultat de notre sondage.
Ce message d'Anthony qui nous dit « Moi, je me suis pris la tête, entre guillemets, avec la maîtresse de mon enfant la semaine dernière. Elle ne donne des devoirs que pour le vendredi. Je lui ai dit que ce n'était pas assez. Elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas donner plus car il y avait des élèves en difficulté. Donc, j'ai acheté Becherel et je me suis substitué à l'instit. Oh. » Voilà ce qui arrive.
Oui, alors on ne peut pas enlever tous les élèves en difficulté, nous, c'est ce que je veux dire.
Oui, là, ça risque de poser souci aux instits. Voilà. Exactement. Moi, j'avais des parents profs, ma mère instite, elle disait tout le temps, et papa chez le boulanger pour lui dire je vais t'expliquer comment tu dois cuire ton pain. Donc, si chaque parent a une idée précise de la méthode pédagogique et va dire à l'instit, moi, je veux plus de devoirs, moi, j'en veux moins, moi, je veux des dictées, moi, pourquoi il n'y a pas de contrôle, ça va devenir compliqué. Mais ça relance aussi la question de débattre sur les groupes de niveau, toute cette histoire, finalement. Parce que depuis tout à l'heure, on dit il y a des élèves qui empêchent les autres de suivre. Mais il n'y a pas six mois, on parlait de faire des groupes de niveau, on avait l'impression qu'on était en train de mettre des coups de canif dans le pacte républicain et que c'était un scandale, les groupes de niveau. Quand même, c'est pas un scandale, c'est du bon sens pédagogique justement de dire bah, si toi t'en es à faire les additions et toi tu fais des équations à virgule, bon, on va peut-être pas vous mettre ensemble.
Ça, c'est de l'idéologie.
Allez, dans un instant, alors on change totalement de sujet, on va parler de soupe industrielle. Bah oui, vous savez, ça fait un carton, on en trouve partout dans les rayons des supermarchés, mais est-ce qu'elles sont bonnes ces soupes industrielles pour la santé et pour le goût? Eh bien, nous verrons ça avec Pierre et Collégas et surtout Charlotte Péritant dans un instant. À tout de suite.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi.
C'est Vincent Moscato. Écoutez le Super Moscato Show du lundi au vendredi de 15h à 18h sur RMC. C'est le meilleur show radio du monde avec une équipe formidable et surtout moi, bien entendu.
Le Super Moscato Show du lundi au vendredi, 15h-18h sur RMC.
Le Super Moscato Show sur RMC avec Eurotailleur, spécialiste du pneu et de l'entretien auto.
Eurotailleur, le meilleur ami de votre mobilité.
Papa, 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 dis, y a quoi dans la pochette surprise?
Ah bah attends, si je te le dis ma chérie, ce sera plus une surprise.
Les enfants aussi se régalent chez Hippopotamus et on a tout prévu pour eux. Un menu enfant gourmand, sa pochette surprise et tout ce qu'il faut pour s'amuser. Et le mercredi, quand il n'y a pas école, il y a Hippo. Profitez du menu enfant à 4,90€ au lieu de 8,90€. Hippopotamus, steakhouse à la française.
Offre valable pour deux menus enfants maximum pour l'achat d'un plat adulte. Voir restaurant participant sur hippopotamus.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Vous voyez cette fissure sur votre pare-brise? Vous voulez pas rouler comme ça? Chez Carglass, bien sûr, on vous remplace votre pare-brise. Mais pas juste un qui lui ressemble, mais un qui a exactement les mêmes technologies, comme le détecteur de pluie ou la caméra. Chez Carglass, ces technos, bien sûr, on les maîtrise. Et jusqu'au 25 octobre, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre une trousse à outils Noroto pour votre voiture. Il y a plus de 50 pièces dedans, c'est le moment d'en profiter. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous gratuitement au 3044.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Chaque jour, vous accueillez des clients, vous leur préparez une chambre, un café, des plats bistro ou des repas gastro. Alors notre mission, c'est de prendre soin de vous comme vous prenez soin d'eux. Pour vous, Clésia et Malakoff Humanis ont conçu HCR Bien-être. Mieux dormir, réduire son stress, être soutenu en cas de coup dur. HCR Bien-être, c'est bien plus qu'une complémentaire santé.
HCR Bien-être, vous allez adorer le menu. Clésia Prévoyance et Malakoff Humanis Prévoyance, institutions régies par le Code de la Sécurité Sociale, sont les assureurs de HCR Bien-être. Rendez-vous sur hcrbien-être.fr.
Flash Sécurité, alerte innovation.
Vérissure lance la première serrure connectée reliée à la télésurveillance 24 heures sur 24. La serrure connectée Vérissure permet de profiter d'une sécurité renforcée dès votre porte d'entrée. Ouvrez et fermez votre porte à distance où que vous soyez. Votre maison est toujours protégée avec Vérissure. La serrure connectée Vérissure, la nouvelle référence de la sécurité.
Cette innovation vous intéresse? Bénéficiez d'une serrure connectée offerte pour l'achat d'une alarme sur verissure.fr.
Un service opéré par Verissure, société agréée CNAPS.
Un job auto, moto, camion, vélo?
C'est simple comme Job2Move.
Des milliers d'offres d'emploi partout en France?
C'est simple comme Job2Move.
Des candidatures facilitées?
Simple comme Job2Move.
Alors pour travailler dans les métiers de la mobilité, c'est quoi le plus simple?
Bah c'est simple, Job2Move.
Aujourd'hui, mon futur job, c'est simple comme Job2Move.
Job2Move.fr.
Ouais, trop simple.
À tous ceux qui culpabilisent parce qu'ils ont mangé un paquet de raclette pour deux tout seuls. Non, mais il y a écrit n'importe quoi sur ces emballages pour deux personnes. Moi, je dis que c'est pour une personne, et encore. Vous suggérez que je mange trop, c'est ça? Dès mardi chez Intermarché, pour l'achat d'un paquet de raclette nature Richemont à 5,15€, vous avez 60% de remise immédiate sur le second. Et c'est aussi au drive en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 20 octobre, soit le deuxième à 2,06€, 840 grammes, soit 8,58€ le kilo au lot, origine France, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Dans moins d'une minute, RMC Conso, dans Estelle Midi.
Dans mon entreprise, on accueille régulièrement des intérimaires. On a tout misé sur leur sécurité dès leur arrivée. Avec l'agence d'intérim, on s'assure de leur formation, de leurs équipements et on les accompagne de la prise de poste jusqu'au dernier jour. Pour les intérimaires comme pour nos salariés, chez nous, la sécurité, chaque jour, on doit y penser.
Mieux préparé, mieux équipé, mieux formé. Employeurs, salariés, passez à l'action sur sécuritéautravail.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut décider de faire confiance à plus de 800 000 conducteurs de Dacia Sandero. Dacia Sandero, la voiture la plus vendue aux particuliers depuis 8 ans en France, à partir de 12 240 euros, est à découvrir pendant les jours essentiels du 10 au 14 octobre.
Prix constructeur conseillé pour Dacia Sandero Essential SCE 65,9 hors option. Source 3A Data au 1er août 2024. Conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h35, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et on parle de soupe là tout de suite avec Charlotte Méritant, RMC Conso.
Estelle Midi.
RMC Conso.
Et oui, Charlotte, car la saison de la raclette a commencé, mais la saison de la soupe aussi.
Oui.
Alors, la soupe, on le sait, on n'a pas forcément le temps de la faire soi-même. Et parfois, les briques toutes prêtes sont bien pratiques. Mais qu'y a-t-il vraiment dans les soupes industrielles? Charlotte, vous allez tout nous dire.
J'ai repéré trois, ce que j'appellerais des arnaques à l'étiquette. Et la première, c'est sur une brique intitulée « Velouté de poireaux français ».
Ouais.
Le problème, alors la brique, c'est le format le plus consommé en France, 60% des ventes. Le problème, c'est que donc cette brique, elle nous dit 100% d'ingrédients naturels, 100% de légumes français. Mais lorsque je regarde de plus près l'étiquette, je m'aperçois qu'il n'y a clairement pas 100% de légumes, mais 30,7% de légumes, sachant que...
Il y a de l'eau quand même.
Oui, évidemment, mais bon, ça fait beaucoup, 70%. Sans dos quand même.
Oui, c'est vrai.
Sachant que le premier légume en présence n'est pas le poireau, mais la pomme de terre. Donc pour moi, ça aurait dû s'appeler velouté de pomme de terre et poireau à la limite, mais pas poireau simple. Alors j'ai reproduit la recette en mettant la même proportion d'eau, de poireau et de pomme de terre. Alors, et alors
si
mon
si
résultat.
Je me permets, pour ceux qui nous écoutent, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que vous voyez la soupe de Charlotte. Alors je ne sais pas si Charlotte est grande cuisinière, mais sa soupe, mais c'est une horreur. C'est-à-dire que jamais vous bah mangeriez oui. un truc pareil. Et donc ça c'est la recette
Finalement c'est brique. En tout cas c'est la recette de la brique, puisque là-dedans il y a 18% de pommes de terre et 12% de poireaux, et le reste c'est de l'eau. Et alors à côté j'ai mis la soupe la vraie, celle de ma brique, et elle est beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus épaisse.
Comment ils font? Il y a de l'épaississant.
Et il y a de l'épaississant, exactement, de l'amidon de maïs, très exactement.
Oh là là.
C'est la raison, c'est leur petit secret, c'est la raison pour laquelle cette soupe est aussi épaisse que 30% de légumes, mais de l'amidon de maïs.
Beaucoup de légumes, puisque c'est...
Bah oui, on a l'impression.
Mais oui, mais c'est une
première arnaque sur l'étiquette.
Première arnaque. Mais il y a aussi une deuxième arnaque, cette fois-ci, sur la soupe déshydratée qui est la moins chère. Hein,
oui, je l'aime bien, celle-là. Douceur de 9 légumes avec une touche de crème. Ça fait envie, dit comme ça.
Ouais, alors, en vrai, non.
En vrai, non. Et encore, vous n'avez pas encore lu la liste des ingrédients. Moi, j'aurais plutôt renommé cette soupe douceur de pommes de terre, graisse de palme, sucre, farine de blé. Avec une touche de légumes. Pourquoi? Parce que les quatre ingrédients que je viens de vous citer sont les quatre premiers ingrédients de cette soupe, donc ceux qui sont le plus présents dans ce sachet.
Mais il n'y a pas 9 légumes?
Il y a 9 légumes, mais dans des proportions de 2 à 6%.
Il y a plus d'huile de palme que de légumes.
Il y a plus d'huile de palme que, par exemple, de courge ou de carottes.
C'est choquant quand même.
Alors, ça, c'est la soupe déshydratée et c'est la soupe en brique. Mais alors, franchement, aujourd'hui, la hype, la tendance, on va dire, quand même, Charlotte, ce sont les soupes dans les bouteilles de verre. Et là, en vrai, ça fait un peu soupe de chez mamie. Moi, j'aime bien.
Oui, le verre, on l'associe un petit peu plus à l'authentique. Et j'ai une soupe dans une bouteille en verre verre où c'est écrit soupe comme à la maison.
Moi j'aurais pris celle-là.
Ah oui, ça donne envie aussi. Alors je sais pas vous, mais moi je mets pas de sucre dans la soupe que je fais à la maison. Non. Alors que dans cette soupe, dans une bouteille en verre, il y a du sucre ajouté.
Non. Ouais. Oh, bah, peut-être un peu sur la soupe à la tomate, non, pour enlever la
éventuellement sur la tomate, mais pas sur le potiron qui est déjà assez naturellement sucré.
On pense faire une bonne action de légumes, mais en fait on mange.
Mais je suis dégoûtée. C'est combien de calories votre truc là?
Par portion, c'est 91 calories, ça va, mais il y a quand même donc 5 grammes de sucre. Ah, non, quasiment 6 par portion. 6 grammes, c'est un carré à peu près. D'accord. Un carré de sucre dans une soupe, c'est quand même assez hallucinant. Alors, ils disent qu'il n'y a pas d'exhausteur de goût. En fait, le sucre, c'est ça, c'est l'exhausteur de goût, ça sert à ça. Il y a 54% de légumes, mais à la limite, le pire, c'est pas tant la composition, mais le prix, parce qu'évidemment, on vous fait payer tout ce marketing très léger.
Il y a une bouteille en verre, c'est normal.
Eh bah oui, 6,36 € le litre. Ah oui. Le litre, pour la bouteille en verre, j'ai trouvé l'équivalent, la même composition en brique pour 3,45 € le litre, donc quasiment deux fois moins cher. Et à la limite, si vous voulez faire un choix industriel, si vous n'avez pas le temps de faire votre soupe vous-même, le seul conseil que je peux vous donner, le meilleur rapport qualité-prix, c'est de prendre la soupe surgelée.
Oh, mais il n'y a jamais de sel.
Bon, après, vous pouvez en rajouter un petit peu si vous
voulez. Ah non, mais c'est fade.
Il vaut mieux saler vous-même plutôt que le sel soit déjà présent en trop grande quantité. Donc à la limite oui, et au moins dans la surgelée il y a 70% de légumes. Quand vous faites votre soupe à la maison, il y en a entre 70 et 80%. Donc ça reste quand même le meilleur rapport qualité-prix. Quand même la palme d'or, je pense, c'est pour mon sachet de soupe déshydratée douceur d'asperges. Quand vous faites un bol de 250 ml de ça, il y a moins d'1% d'asperges.
Ah, il y a quoi à la place alors?
Bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc de la farine, de l'huile de palme, de l'amidon de pomme de terre, du sucre.
En vrai, faire une soupe, là, je me tourne vers Pirico, mais ça prend pas non plus des masses de temps, quoi. Voilà, faut juste éplucher les légumes.
C'est pas les plus faciles à préparer.
Bah oui.
C'est un bonheur. Mais il y a de très bonnes soupes industrielles aussi, mais.
Bien sûr, là.
Comme la salade,
ça se suggère.
Bien sûr.
Faut regarder les ingrédients, la liste et les étiquettes, parce que oui, il y en a évidemment des mieux que ça. Moi, je vous ai pris, disons, les trois
pires. On en prépare à l'avance, en plus de la soupe.
Oui.
Pour une vingtaine d'euros, t'as un bon bol de soupe, hein, industriel.
C'est sûr. Merci beaucoup, Charlotte Mériton. Vous retrouvez bien sûr cette chronique en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Très rapidement, on parle de quoi demain?
Je vous donnerai des conseils pour payer moins cher vos factures d'électricité. Et je vous dirai pas de baisser d'un degré votre thermostat, parce que ça, on le connaît un peu par cœur celui-là. Mais là, des vrais conseils qui marchent.
Génial, merci beaucoup. Charlotte, tous les jours, RMC Conso, 14h30, dans Estelle Midi. Dans un instant, les immanquables de Rémi Barré. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi. I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Les grandes gueules d'RMC ont 20 ans. Et les grandes gueules, c'est encore vous qui en parlez le mieux.
Je m'appelle Rodolphe et j'écoute les grandes gueules depuis 2009. Ce qui me plaît dans les GG, c'est que on est confronté à des chroniqueurs qui sont dans la société, mais en même temps qui ont une spécialité. Alors que dans les autres radios, on en a un journaliste et c'est tout.
RMC Les Grandes Gueules, du lundi au vendredi, 9h midi.
Et t'as pas pris ton vélo pour la sortie vélo?
Je dois le faire réparer, mais entre trouver un réparateur à côté de chez moi, digne de confiance, et pas trop cher, c'est trop galère.
Oui, enfin, là aussi, tu galères sur ton ballon sauteur.
Ou du tout. Ouh !
Avec Bonus Répar, remettre en état son vélo, c'est moins compliqué qu'on ne le croit. Trouvez un réparateur de confiance sur irréparation.eco, avec en bonus une réduction sur la facture.
Bonus Répar, c'est tout bonus.
Bonus Répar est financé par l'éco-participation versée par les adhérents à l'éco-organisme écologique.
Une première victoire, on s'en souvient.
Ah oui, je m'en souviens. Je venais de regarder les athlètes se dépasser pour un podium. C'était dingue. Alors quand je me suis retrouvé devant l'ascenseur, je me suis dit, bah moi aussi je vais me dépasser. Je vais monter par l'escalier. Depuis, je le fais tous les jours. J'habite au 5e. 75 marches pour monter et pareil en descente. 4 fois par jour. J'ai fait le calcul, ça fait 2100 marches par semaine. C'est parfait pour rester en forme. Et puis c'est une petite victoire personnelle. Et en plus, j'ai motivé des voisins à faire pareil.
Après les jeux, on continue. Bougez 30 minutes chaque jour, c'est simple et ça fait du bien.
Ceci est un message du gouvernement.
RMC au 3216,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 73216,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Gamme professionnelle Citroën, 100 ans de passion avec les pros.
Ah, mon Jumpy, qu'il est joli et si généreux, avec son volume de chargement de plus de 6 mètres cubes, tellement pratique.
Nouveau Citroën Jumpy, tellement joli. À partir de 229 € hors taxes par mois, avec le kit bois offert pendant les jours pro. Existe aussi en version électrique.
Mon Jumpy, je l'adore.
Citroën.
Crédit bail 60 mois, 100 000 km, premier loyer de 6 765 euros hors taxes, offre professionnelle jusqu'au 30 novembre, si acceptation crédit part, détails sur citroën.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 1,89€.
Des pommes de terre ?
Très oui, en ce moment, le filet de 2,5 kg origine France est à 1,89€.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Et ça nous fait 75 centimes le kilo.
Grand jeu anniversaire Lidl Plus, jusqu'au 10 novembre, 1500 euros à gagner chaque mois pendant un an. Catégorie 1, consommation vapeur, sautée ou salade, calibre 35-55, variété Marilyn ou Jazzy, origine France. Règlement et informations sur Lidl.fr.
Vous donnez tout pour votre entreprise. Pendant les journées Opel Pro, Opel vous le rend bien. Avec Opel Combo, Vivaro et Movano, offrez-vous le meilleur de la modularité et de la technologie. Et pendant les journées Opel Pro, Opel vous offre jusqu'à 7000 euros de remise exceptionnelle et 1500 euros d'équipement. Rendez-vous en concession pour découvrir la gamme utilitaire, également disponible en 100% électrique. Jusqu'à 1500 euros d'accessoires et options offerts en montage d'usine et jusqu'à 7000 euros de remise sur nouveau Movano thermique. Offre jusqu'au 30 novembre dans le réseau participant, voire détail en concession.
Dans moins d'une minute sur RMC,
les immanquables d'Estelle Midi.
Dans mon métier, les chutes de hauteur, ça pardonne pas. C'est pour ça que j'ai investi dans des échafaudages sécurisés et qu'on les entretient régulièrement. Mes salariés sont formés pour les utiliser et ils savent que si c'est pas protégé, personne ne monte. Dans mon entreprise, la sécurité des salariés, chaque jour on doit y penser.
Mieux préparé, mieux équipé, mieux formé. Employeurs, salariés, passez à l'action sur sécuritéautravail.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Carrefour. Quand vous me dites l'onctuosité d'un yaourt au bon goût de fruits rouges, ça tombe bien. Les yaourts brassés aux fruits rouges mixés Carrefour Classique, fabriqués en France avec du lait français et sans colorant artificiel, sont à 2,25€ les 8 yaourts. Ah bah là, il n'y a pas mieux. Et c'est jusqu'au 11 février chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive, Carrefour Contact, City et Express. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. 8 x 125 grammes, différentes saveurs, détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limiter les aliments gras, salés et sucrés.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h45, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, voici les immanquables de Rémi Barré, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
On va démarrer, Rémi, avec la menace du jour.
Cette menace, elle nous vient du ministère de la Justice. Le garde des Sceaux, Didier Migaud, prévient qu'il ne restera pas au gouvernement si le budget de la justice n'est pas amélioré. Le projet de loi de finances qui a été présenté la semaine dernière prévoit un rabot de près de 500 millions d'euros.
C'est dommage, c'est la seule personnalité de gauche du gouvernement. Ah bah oui. Marlène Schiappa, on y croit ou on n'y croit pas à cette menace ?
J'y crois moyen. Je vais vous expliquer pourquoi d'abord, parce que vous savez, il y a cette vieille phrase, je crois que c'était Chevènement qui disait un ministre ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Bon, c'était avec son franc-parler, mais en général, on prévient pas qu'on va démissionner. Alors, le Premier ministre, il est un peu pris au piège là, parce que soit il augmente le budget de la justice, et donc le message aux 39 autres ministres, c'est il suffit de menacer de démissionner et vous aurez une augmentation de budget, ça fonctionne. Donc, en termes d'autorité pour le Premier ministre, c'est pas génial. En même temps, ministre de la Justice, il a envie de donner des gages à son écosystème, de montrer qu'il est là, qu'il les défend. Mais moi, ça me pose une question, c'est-à-dire qu'au moment des négociations pour rentrer au gouvernement, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu cette discussion budgétaire, les ministres, sur leur périmètre avec le Premier ministre.
On leur a peut-être menti.
On leur a peut-être pas tout dit, il y a peut-être eu des négociations, tout simplement. Alors après, il dit ça aussi, pourquoi ? Parce qu'en sous-texte, c'est un message pour les parlementaires. Parce que le budget, il va être discuté et voté, il y aura des amendements. Donc quand Didier Migaud dit ça, à mon avis, une porte de sortie, c'est le Premier ministre ne touche pas le budget, il le présente au vote comme tel. Didier Migaud fait son plaidoyer devant les parlementaires, les députés déposent des amendements pour augmenter le budget de la justice. Ça trouve un consensus gauche-droite, parce que droite, comme Juliette Briens, vont dire « oui, il faut que la justice ait les moyens, ça suffit l'impunité, etc. » La gauche va dire « il faut que la justice ait les moyens, on ne peut pas laisser la situation dans la prison, etc. » Tout le monde est d'accord. Paf, on augmente le budget de la justice, Didier Migaud reste et c'est la fin de l'histoire.
C'est un peu ridicule quand même, Perico Légas, voilà, vous êtes ministre depuis 2 semaines et vous commencez déjà à menacer de démissionner. Quoi.
Non, je pense que venant de Didier Migaud, d'autres personnalités politiques, je me serais dit, on est dans la communication. Je pense qu'il est vraiment contrarié, qu'il n'ait pas eu les chiffres, personne ne les a eu, Marlène, on se doute que tout ça a été fait à la va-vite. Ce qui est là où il a raison, c'est que s'il y a un poste aujourd'hui dans le gouvernement de la République auquel il faut venir au secours d'urgence, c'est bien la justice. Alors qu'on dise pas d'augmentation du budget, mais 500 millions en moins, on sait que la magistrature est en décrépitude, les tribunaux sont saturés, les places de prison. Donc, c'est un poste d'urgence, 500 millions en moins. Oui. Je ne sais pas à quoi on joue. Alors, je ne suis pas compétent, je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait les retirer. Je suis sûr qu'il y a d'autres postes ministériels où on pourrait retirer les 500 millions pour donner, au moins, ne pas réduire le budget de la justice.
Alors, je crois que tous les postes ministériels se sont vus raboter.
Oui, mais on va regarder. On va quand même regarder. Je suis sûr que notre avis sera.
Les débordements du jour.
Des débordements qui ont eu lieu ce week-end, samedi, en Gironde. Incidents qui ont éclaté en marge de la manifestation des opposants à la future ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse. Un véhicule de la gendarmerie a été vandalisé par des personnes cagoulées et un hélicoptère de la gendarmerie a même été visé par des tirs.
Juliette Briens, vous comprenez qu'on puisse manifester contre une ligne à grande vitesse finalement, alors qu'on passe notre temps à nous dire qu'il faut prendre le train parce que c'est un mode de transport écologique?
Je ne sais pas quoi dire. Moi, on peut manifester contre ce qu'on veut dans ce pays. Tout le monde est libre, chacun fait ce qu'il veut. Je ne comprends pas qu'on puisse dégrader. Et j'attends le jour où on commencera à faire des exemples. Parce qu'on n'en fait pas. Parce que qu'est-ce qui s'est passé juste avant les JO? On s'est fait saboter des lignes. Où sont les conséquences?
C'est vrai.
Il n'y en a toujours pas. Voilà, on n'en parle plus. On ruine des champs d'agriculteurs.
On les a peut-être pas retrouvés. Hein.
On ruine des champs d'agriculteurs. On jette de la peinture, enfin, l'impunité totale. L'impunité totale, pourquoi? Parce que ces gens sont des écologistes et donc on leur cause. Et donc, non mais c'est incroyable, combien de temps on va continuer à se faire piétiner par ces gens qui empêchent aussi les automobilistes d'avancer, par exemple, dans la rue, font des barrages, etc., qui balancent de la peinture sur des œuvres d'art.
Avec des vitres.
Tout comme.
C'est pas tout à fait pareil.
Ils continueront tant qu'on n'en fera pas des exemples. Et par exemple, je dis prison ferme. Prison ferme pendant longtemps.
Parce que t'as jeté une soupe à la tomate sur une vitre.
Bien sûr que oui.
Mais t'es dingue.
Bien sûr que oui.
C'est pas possible.
Mais prison ferme. Immédiatement.
Mais non, mais. Mais enfin, les prisons. Excuse-moi, pardon. Mais attends, mais t'es la première à dire que les prisons sont. Non, mais t'es la première à dire qu'il n'y a pas assez de prisons, etc. Les prisons, elles débordent. Et donc, toi, tu vas aller mettre un gamin qui bêtement.
C'est pas des gamins. Non, mais ne minimisez pas. Ce ne sont pas des gamins.
Un jeune de 25 ans, parce qu'ils ont rarement 50 ans quand même.
Un militant politique.
Alors, un militant qui a jeté une soupe à la tomate sur une vitre d'une œuvre, si tu commences à mettre en prison, mais on met tout le monde en prison.
6 mois. Un bon 6 mois, là, ça te remet les idées en place, là.
Je préférerais
mettre de l'ordre là-dedans.
Oui, alors.
6 mois, t'en prends 10, tu les mets
en prison. C'est une menace pour la société.
Six mois au placard. Bah, tu verras qu'après, il y en aura moins.
Oui,
c'est
vrai.
Mais
oui,
mais. Tu lui fais manger sa soupe à la tomate pendant 6 mois.
Il va s'en remettre, ça va le calmer.
Non, mais j'entends. Bon, Marlène Schiappa, on fait quoi avec ces débordements? Parce que naïvement, moi, je me disais, bah, tiens, une ligne à grande vitesse, c'est super. Ça va permettre aux gens de plus prendre le train et moins l'avion ou moins la voiture. Et donc, c'est écologique. Et c'est vrai que quand on voit que les écologistes se battent contre, bah, alors, oui, ça doit effectivement avoir des impacts sur la faune et la flore.
La diligence, c'était mieux.
Oui, mais à long terme.
Non, mais blague à part, Estelle, la question que vous posez est hyper intéressante parce que derrière, il y a une réponse philosophique et quasiment politique, en fait. C'est-à-dire que si on considère que la cause est bonne, on a le droit d'enfreindre la loi. Donc là, ces personnes qui considèrent que la cause écolo est au-dessus de tout, donc au-dessus des lois, donc ils s'octroient le droit d'enfreindre la loi. Alors moi, au nom des causes que je vais défendre, que j'ai envie de défendre, légitime ou pas, moi j'estime que c'est ma cause et donc je vais m'octroyer le droit de passer au-dessus des lois. Et donc si on commence comme ça, c'est la fin de l'état de droit, c'est la fin de l'universalisme du droit, c'est la fin du droit pour tous et donc des règles communes de la société. Parce qu'autour de la table, on a sans doute chacun une cause qui nous tient à cœur et pour laquelle on peut considérer que bah, cette cause, elle vaut qu'on en freigne la loi et qu'on fasse des actions coup de poing et parfois des actions violentes, qu'on dégrade des œuvres. Mais qui sait demain, pourquoi pas, qu'on agresse quelqu'un? Si la cause est juste, je vais dire, bah oui, j'ai agressé telle personne,
mais
ma cause est juste. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend parfois quand on légitime des agressions contre des politiques. Moi, j'entendais, Dieu sait si je suis opposée au Rassemblement National, mais quand, par exemple, on avait jeté, je crois, des œufs sur Marion Maréchal, bah, moi, je m'étais indignée en disant, en fait, si on considère qu'on a le droit de jeter des œufs sur les gens et demain de les frapper, les agresser parce qu'on n'est pas d'accord avec eux, bah, ça veut dire que c'est la fin de l'état de droit, tout simplement.
Surtout ça disqualifie les fois où il faudra peut-être enfreindre la loi face à des vraies tyrannies, des vrais abus,
exactement,
des vraies négations de droits. Et bien là, on dira, ben non, on ne peut pas, vous savez. Voilà,
absolument.
La dégustation du jour.
La 12e édition du championnat du monde de dégustation de vin à l'aveugle était organisée ce week-end à Margaux, en Gironde. Et il a vu ce championnat, le triomphe de l'équipe italienne. Taïwan et la Suisse sont seconds ex aequo. La France est 28e.
Mais c'est incroyable.
Non.
Ah si, Perico, 28e en vin, enfin, c'est
fait
fou.
Normal.
Ah bon?
La production française de vin, dans certains domaines, est en train de s'aligner sur les critères gustatifs mondialisés. C'est-à-dire des vins très puissants, très alcoolisés, très boisés, très élevés. Du coup, nous perdons notre identité, notre typicité. On se met à ressembler aux autres. Dans cette, j'allais dire, cette compétition au vin le plus structuré les autres sont plus forts que nous, et bien on arrive dernier. Refaisons du vin français à la française, avec nos terroirs, nos appellations, nos paramètres géoclimatiques, notre sensorialité, notre culture machique. On n'est pas les meilleurs, les vins italiens sont sublimes. Tous les mondes... Non, il y a du vin bon partout. Mais nous avons une typicité française que nous oublions pour nous aligner sur des concours de critères. C'est un peu sportif, vous savez, les bodybuildés. Voilà, on est tous dans le... Voilà,
non mais t'as des athlètes. Vins suisses sont très bien, les vins du Valais, d'accord. Mais en vrai...
Je pense que c'est des critères qui...
Mais tu te dis, c'est quand même dingue. Enfin, on n'est pas troisième, on n'est pas quatrième, on est 28e.
Mais bien fait.
Non mais.
Ah non, je vous le dis, je sais que je connais ces vins.
Moi,
ce sont des vins qui sont.
Hein.
Je ne les appelle pas des vins qui représentent la typicité française. Ils représentent les vertus œnologiques et les capacités technologiques de certains crus. Eh bien, on le paye très cher.
Ah bah, on est en dégringolade également sur le classement pizza du vin.
C'est le concours qui sert à rien.
Ah d'accord. Ah oui, voilà. Ok, donc quand on est premier, c'est un super concours. Mais non, vous et quand on est 28e, c'est la faute du concours.
Oui,
ah d'accord. Bon, bah si c'est.
Si on avait gagné, tu serais en train de dire c'est génial.
Allez, Vincent Moscato. Moscato, lui, c'est le numéro 1, il n'y a pas de critères, tout va bien. Ah. Le super Moscato Show, nouvelle semaine, salut Vincent, et toi
Mbappé.
Bah,
Estelle,
bah, elle va bien.
Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Oula. Oui, bah oui, j'ai pas remonté ta chaise. Bon, alors, le micro.
Alors, Dupont, voilà, Dupont,
c'est incroyable.
Il rentre 9 minutes, 3 essais.
Ouais, direct.
Là, quand même, papa. Alors, c'est un phénomène, on va en parler parce que Ntamack est blessé.
Bah oui.
C'est blessé.
Comme d'hab, j'ai envie de dire. Hein. Il a déjà raté la Coupe du Monde.
Ah non, mais c'est fou, il s'engage beaucoup, il défend énormément, mais il y laisse un peu la couane. Il y laisse la couane, c'est le cas de le dire. Pogacar peut-il dégoûter le public du cyclisme?
Est-ce qu'on était dégoûté par Merckx?
Non, moi je suis content.
On est dégoûté par les gens qui gagnent?
Non, il faudra voir s'il y a une oreille qui lui pousse au milieu du front.
Ça va avoir dans 10 ans, ça.
On verra bien dans 10 ans. On ne sait jamais dans ce métier-là.
Rétrospectivement.
Ce soir, Belgique-France, Didier Deschamps, il a encore de la ressource?
On verra. J'ai envie de dire, on verra dans 10 ans.
On verra, c'est tout ce que tu dis, on verra. J'ai l'impression que tu as envie de te débarrasser de moi parce que tu es arrivé à la mort.
Non, je ne peux pas dire ça.
Ne me mens pas.
Écoute, on a gagné notre premier match face à la Belgique. Là, je crois que c'est un petit peu plus dur. Oui, mais je suis assez d'accord.
Les maladies.
Non, mais parce que c'est un petit avec une petite fleur. Voilà, c'est un peu printemps.
Tu devais faire une photo pour les maladies féminines.
Mais pas du tout, mais n'importe quoi.
Je demande.
C'est un pull avec une petite pâquerette, je ne vois pas le rapport.
Je croyais que c'était un message.
Le super Moscato Show, je vois que tu es très heureux parce que je vois ça.
Là, des débats.
C'est beaucoup, non, 3 heures.
3 ans, ça va faire beaucoup. Non, là, parce que là, y a...
Et nous, on se retrouve demain, midi 15h, dans
Estelle. Pas bon, on va bronzer. S'il faut, on passera le tour. On parlera du match contre l'Afrique du Sud l'an dernier.
Oui, voilà. Ça, c'est très bien ça. Il y a 10 ans,
on en a pas assez parlé.
Allez, le super Moscato Show, c'est tout de suite. On se retrouve demain, midi 15h sur RMC.
Merci bien.
RMC jusqu'à 18h.
Le super Moscato Show.
Antoine de Ridmaten, vous êtes le président du directoire d'Inextenso, leader français de l'expertise comptable et du conseil aux TPE-PME. Quel conseil donneriez-vous aux entrepreneurs dans un contexte économique plus tendu?
Surveillez votre BFR et votre niveau de cash. Le besoin en fonds de roulement désigne les besoins de financement à court terme d'une entreprise, résultant des flux de trésorerie correspondant aux décaissements et aux encaissements futurs.
Et comment Inextenso accompagne ses clients?
Nous aidons le chef d'entreprise à optimiser la gestion de son BFR afin d'en limiter les impacts sur sa trésorerie. Nous lui proposons un diagnostic, puis un plan d'action axé sur la gestion des stocks, les dettes fournisseurs et le poste client. Retrouvez-nous dans l'une de nos 250 agences partout en France et sur notre site internet inextenso.fr.
Inextenso, entreprenez l'avenir.
Bon, Vincent, dernière répète. Comment on dit Kodiak en parisien?
Kodiak en...
Biard. Eniac maintenant?
Eniac en...
Attention, plus difficile. Fabia?
Fabia en...
C'est bon, je crois que t'es prêt.
Heureusement, vous pourrez aussi profiter des offres du Mondial de l'Auto de Paris sans venir à Paris. Jusqu'au 20 octobre, ne ratez pas les remises exceptionnelles sur la gamme Skoda, également proposées dans l'ensemble du réseau. Skoda. Offre à particulier valable du 11 au 20 octobre. Immatriculation avant le 31 décembre. Détails sur skoda.fr. Pensez à covoiturer.
Récapitulons. Juste parce que c'est vous.
Avec le moitié prix poltron et sofa, vous profitez de 50% de remise et vous obtenez 100% de confort.
J'ai laissé, car c'est moi qui l'ai fait.
Et toujours parce que c'est vous. Je vous le dis. Ça se termine samedi.
Poltron et sofa. Solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
Ford Pro.
Les bénéficiaires, c'est le moment d'être plus productif. Hop, hop, hop.
Plus productif, ok, d'accord, patron, mais comment?
Avec Ford Pro, bénéficiaires.
Bien sûr. J'allais le dire. Hein.
Pendant les jours plus productifs Ford Pro, profitez d'offres exceptionnelles comme le nouveau Transit Custom à partir de 199€ par mois. Ford Pro. Crédit bail 60 mois et 100 000 km. Premier loyer de 7 050€. Option d'achat 13 528€. Coût total si achat 32 319€. Si acceptation par Ford Crédit. Offre réservée aux professionnels jusqu'au 31 octobre. Montant hors taxe dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Ford participant. Voir Ford.fr.
à tous ceux qui veulent un café. Levez la main, s'il vous plaît. 5. Benoît, tu lèves la main ou tu bailles? Quoi, Corinne? Tu veux un déca avec un peu de lait? Ah ouais. Tu veux pas une paille non plus? Non, mais elle, elle est hors sol. Dès mardi, Intermarché offre 34% en avantage carte sur le sachet de 62Z de café classique Senseo, soit 4,62€ avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 20 octobre, 7€ prix payé, 416 grammes, soit 16,83€ le kilo, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby.
Vous connaissiez, vous avez dansé, vous avez emballé Femme Like You de Camaro. C'est ce qu'on écoutait en 2004 quand les grandes gueules sont nées. 20 ans plus tard, Camaro, c'est le signal qui vous donne le top. Vous vous inscrivez et vous remporterez jusqu'à 5 000€. Alors jouez dès maintenant avec Camaro. Envoyez GG par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes. GG par SMS au 732-16.
Chez Orange, on sait que lorsque l'on vit sous le même toit, il faut tout partager. Même le frigo quand...
Oh, il n'y a plus rien.
Et aussi la salle de bain qui est...
Occupée.
Par contre, avec le pack mobile 100 Go 5G, chacun profite de son forfait pour 14,99€ par mois et par personne.
Ah, enfin une bonne nouvelle.
Orange est là.
Offre réservée aux nouveaux clients dans la limite de 5 souscriptions concomitantes et à la même adresse. Prix valable à compter de la deuxième facture après validation de la demande de remboursement au lieu de 29,99€ par mois avant. Conditions en boutique ou sur orange.fr.
Un problème de vitrage sur votre voiture? Vous pensez à Carglass directement? Bien sûr, on s'en occupe de votre vitrage. Et avec nous, vous êtes sûr de conserver votre garantie constructeur. Chez Carglass, peu importe l'intervention vitrage ou la marque de votre voiture, votre garantie constructeur, vous la gardez. Et encore mieux, jusqu'au 25 octobre, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre une trousse à outils Noroto pour votre voiture. Il y a plus de 50 pièces dedans. Et ça, c'est Carglass qui le fait pour vous. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.